Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous êtes ici, chez vous, chez l'Institut culturel Quetzalcoatl. Notre conférence d'aujourd'hui a pour thème la personnalité et les planètes. Nous allons un peu étudier les choses qui sont en relation avec l'astrologie hermétique. Voir quelle influence l'astrologie hermétique a sur nous, sur notre façon d'être, notre façon de dire, notre façon de penser et de ressentir. Nous allons étudier les influences que compte sur nous, ces différentes planètes ou ces différentes unités cosmiques qui se trouvent près de notre planète Terre. Georges Lakowski, c'est scientifique, a démontré l'intime relation qui existe, par exemple, entre les tâches solaires et les guerres. Nous sommes dans une époque où nous pouvons diriger les fusées des sondes, nous pouvons téléguider des appareils et tous ces genres de choses. Nous ne pouvons plus nier que les ondes électromagnétiques peuvent affecter notre façon d'être, de penser, de ressentir et d'agir. Comme le déclarent ces savants russes qui découvrirent que lorsque les tâches augmentaient sur le Soleil, il n'y avait plus de guerre sur notre planète Terre. D'une façon ou d'une autre, ces tâches solaires influencent notre mental, nos émotions et nous nous lançons dans des guerres lorsque celle-ci devient plus nombreuse. Tout cela nous intrigue, nous inquiète et nous fait réfléchir sur cette astrologie hermétique dont nous parlaient les Chaldéens, les Égyptiens et les civilisations dans lesquelles elle était étudiée. De plus, nous avons une loi très importante, une des lois cosmiques, qui est en relation avec cette astrologie hermétique. Et cette loi est la loi du Hepta-Parapachinok. Hepta voulant dire sept, et il s'agit de la loi du sept, bien sûr. La loi du 3 crée tout ce qui existe, tout ce qui doit se former, et on l'appelle ainsi car c'est l'union des trois forces primaires qui sont contenues, ou qui sont connues dans le christianisme comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dans l'Inde millénaire, elles sont Brahma, Vishnu et Shiva. Chez les Mayas, ce sont Chipicacoulha, Raxacacoulha et Cacoulha. Et pour la science, elles seraient la force positive, la force négative et la force neutre. Ces trois énergies, ces trois forces s'unissent pour donner origine à tout ce qui est, à tout ce qui a été et à tout ce qui sera. Par exemple, chez l'être humain, la force positive est représentée par l'homme, la force passive par la femme, et l'acte amoureux représente la force conciliatrice ou la force neutre, ce qui donne l'origine du nouvel être humain. Tout ce qui est créé est à son tour organisé ou perfectionné par la loi du 7, la loi de l'Eptaparapachinok. C'est pour cela, parmi tous les chakras que nous possédons, sept sont fondamentaux, principaux. Chaque planète de l'espace infini a la mission de porter sept races humaines. Nous autres sommes la cinquième race humaine qui doit porter notre planète. Et toutes les planètes doivent porter sept races également. Chaque race se divise en sept sub-races. Chaque sous-race se divise en sept troncs. Chaque tronc se divise en sept branches. Et d'accord avec le développement en accord avec le développement de chaque humanité. Il y a 7 jours dans la semaine, précisément, organisé avec les 7 unités cosmiques, ou 7 planètes fondamentales de notre système solaire. Et nous devons très bien étudier ces unités cosmiques principales parce qu'elles nous influencent dans beaucoup de domaines de notre vie. Ces 7 planètes sont la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. C'est de là qui viennent les 7 jours de la semaine. Nous avons aussi sept couleurs fondamentales. Dans l'arc-en-ciel, nous avons aussi les 7 péchés capitaux, qui sont l'inverse de 7 vertus principaux. La colère, la luxure, l'orgueil, la paresse, la gourmandise, la cupidité, etc. Ce sont les péchés capitaux. Mais l'organisme humain est aussi composé de 7 corps, de 7 véhicules qui sont les corps physiques, les corps éthériques, les corps astrales, les corps mentaux, les corps causaux et les corps de la conscience. Et finalement, les corps de l'être. 7 corps pour chaque être humain. Et comme nous le disions, pour les 7 jours de la semaine, il y a 7 planètes. qui sont très importants pour nous aussi. Leur influence sur nous sont décisives. Et il faut savoir que non seulement ces sept planètes ont leur influence sur les 7 jours de la semaine, mais ont aussi une influence sur les 7 périodes de notre vie. Notre vie est formée de 7 périodes. C'est chaque période de 7 ans. Et ces 7 périodes sont gouvernées par les 7 planètes ou les plus importantes qui affectent l'être humain. La Lune gouverne les 7 premières années de l'être humain. C'est la première planète parce qu'elle se trouve toute près de la Terre. Et elle nous gouverne de 0 à 7 ans. Mercure gouverne l'être humain de 7 ans à 14 ans. Vénus de 14 ans à 21 ans. Le Soleil, lui, qui est l'unité cosmique la plus importante de notre système solaire, gouverne pas seulement un septennat, mais 3 septennats, 3 groupes de 7 ans. C'est-à-dire que le Soleil a de l'influence sur nous de 21 à 42 ans. Mars nous gouverne de 42 ans à 49 ans. Jupiter de 49 à 56 ans. Et Saturne, l'ancien de Dieu, gouverne l'être humain de 56 à 63 ans. Chaque planète a ses propres caractéristiques. C'est pour cela que leur fut assigné les 7 jours de la semaine, parce que chaque jour est régi par une planète. Il est vraiment dommage que, pour des raisons de certains intérêts au Moyen-Âge, les jours de la semaine aient été changés, et qui aujourd'hui sont altérés. L'unique jour de la semaine qui n'a pas changé, qui n'a pas été changé, et qui est resté le même, est le samedi, qui est régi par Saturne. Le samedi d'aujourd'hui est bien le samedi réel. Vous pouvez voir sur la diapositive l'ordre correct du jour de la semaine. Ainsi donc, le lundi correspond au dimanche actuel, régi par la Lune. Le mardi au jeudi actuel. La semaine exacte est lundi gouverné par la Lune, mercredi gouverné par Mercure, vendredi gouverné par Vénus, dimanche gouverné par le Soleil. Mardi gouverné par Mars, jeudi gouverné par Jupiter, et samedi, l'unique jour correct, gouverné par Saturne. Voilà quel est l'ordre véritable des jours de la semaine. Comme vous pouvez le voir, chaque jour de la semaine est gouverné par sa planète respective avec ses propres caractéristiques. La Lune régit l'imagination, les naissances, le Mercure régit la sagesse, la médecine, la raison, l'intellect, le journalisme, la famille, l'amour, la tendresse, les fiançailles sont régies par Vénus. Le Soleil régit la vie. Mars la force, Jupiter la politique, la mystique, la paternité, la générosité, l'effet d'être père. Et Saturne, c'est la mélancolie, mais représente aussi la mort. La mort physique et la mort psychologique lorsque nous travaillons sur nos propres défauts psychologiques. Pour son élimination, ainsi pour conquérir les vertus. La Lune représente les naissances et la vie, et Saturne représente la mort, l'éther et le karma en action. Donc, les 7 jours de la semaine sont gouvernés par les 7 planètes principales, ce qui veut dire que les lundis, nous sommes influencés par la Lune. Donc, tout ce que la Lune régit et qu'il sera favorable de manière à bien les jours du véritable lundi, parce qu'à ce moment, à ce moment-là, la Lune influence la nature de façon décisive. Mercure, lui, représente l'intellect, la raison, la médecine. Si nous pouvions programmer en guérison que nous devrions avoir le vrai mercredi, qui est le lundi actuel, ce serait merveilleux. Bon, si ce n'est pas possible, eh bien, c'est comme ça. Mais il nous sera toujours plus profitable de faire les choses adéquates. Les jours, correspondant aux influences des planètes qui régissent les activités que nous voulons réussir. Voilà donc l'ordre véritable des jours qui correspond à l'ordre des planètes, comme nous le montrons aussi, de ces groupes, de ces ans dans notre vie. Nous allons étudier chacune de ces planètes et voir comment elles nous influencent et nous gouvernons, durant ce groupe de 7 ans toutes les langues de notre vie. Chaque période, chaque septennate est très importante, mais aucun septennate est meilleur que l'autre. Ces périodes de notre vie sont toutes d'égale importance, mais c'est la vue de la peine que nous nous rendions compte de leur influence afin de tirer la meilleure partie de chaque septennate de notre existence. Eh bien, les premières septennates est indéniablement régie par la Lune, parce que c'est elle qui régit les naissances et les 7 premières années de notre vie. Bien, chaque planète a un gouverneur, le maître qui régit la Lune est le fameux ange Gabriel. C'est lui qui a annoncé à Marie la venue du Christ en elle, et cela devait être forcément lui, car c'est lui qui gouverne les naissances. C'est durant cette période de 0 à 7 ans que se forme notre personnalité humaine. La personnalité humaine est le véhicule d'expression. C'est le véhicule qui peut servir d'expression de l'essence ou à l'expression de l'ego. C'est un véhicule énergétique. Il est en fait que de nos jours, ce véhicule est l'expression de l'ego. C'est ce qu'on appelle la personnalité kalkienne. La personnalité kalkienne, c'est celle que nous avons de nos jours. C'est comment nous sommes aujourd'hui, mal éduqués, grossières, irrespectueux. Nous n'avons plus de respect pour rien, ni aucune vénération pour les choses sacrées. Nous sommes totalement identifiés aux choses matérielles. C'est la personnalité propre de notre âge noir, notre âge de Kali, comme on l'appelle dans le monde oriental et dans lequel nous vivons, et comme le nommait Virgile, le poète de Mantue. L'âge de fer, ou l'hiver de chaque race. C'est pour cela que notre personnalité s'appelle la personnalité kalkienne. Il fait bien sûr faire la différence entre la personnalité et l'essence. L'essence, c'est l'unique chose digne que possède l'être humain dans son intérieur. L'essence s'exprime parfaitement dans notre naissance et se manifeste à partir de 3 ou 4 ans. Nous pouvons d'ailleurs observer chez les nouveau-nés qu'ils sont adorables, enchanteurs. Ils nous fascinent et nous remplissent de bonheur. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est l'essence qui s'exprime. L'essence représente les valeurs de l'être, l'amour, la fraternité, bien sûr, l'humilité. Ce sont les valeurs de notre Père. C'est l'essence, ce sont les vertus. Au fur et à mesure que la personnalité se forme, de l'âge de 3 à 7 ans, l'ego se manifeste dans cette personnalité, et l'essence s'efface peu à peu. Et lorsque les enfants atteignent 4 ou 5 ans, la colère entre en eux, ainsi que l'orgueil, la vanité, etc., etc. Les enfants font des caprices parce qu'ils veulent les nouvelles chaussures, par exemple. Parce qu'ils veulent des jouets, des sucreries, etc. Tout cela à cause de cet ego qui entre peu à peu dans la tendre personnalité de l'enfant et de la butée de l'essence disparaît peu à peu. Les parents sont les seuls à voir leur enfant comme adorable et beau dans cet étage. Mais nous qui les voyons de loin, nous les voyons comme des petits diables, comme des tornades faisant des ravages et des désastres de tous côtés. Ils ont perdu cette beauté de l'essence. Les deux principes fondamentaux qu'il ne faut jamais oublier dans l'éducation de l'être humain sont de la personnalité et de l'essence. Ces deux facteurs doivent être pris en compte et développés d'une façon égale, d'une façon équilibrée. Si nous ne faisons que développer et cultiver l'essence, nous serons un enfant inadapté. Très spirituel et mystique, certes, mais qui ne saurait pas se débrouiller dans la vie, qui ne saurait pas travailler pour gagner sa vie et se débrouiller dans la vie pratique. Il ne saurait pas bien communiquer avec les autres personnes. Il ne sera pas sociabilisé. Il lui manquerait cet aspect de la personnalité. Si nous ne cultivons que la personnalité de l'enfant et que nous oublions la partie spirituelle, la partie de l'essence, nous serons un enfant avec une personnalité kalkienne. Une personne très bien adaptée à cette société caduque et dégénérée. Eh oui, pleine de mensonges, de tromperies, de luxure, d'orgueil, de l'exploitation. Voilà ce qu'elle viendrait à montrer et à manifester. C'est pour cette raison qu'il est vraiment très important de cultiver l'essence et les personnalités de façon équilibrée. L'essence est nourrie de la musique classique, de la beauté des fleurs, de la campagne, de la nature, de l'infinie tendresse que peuvent avoir un père et une mère envers son enfant. Si nous avons le temps de donner à nos enfants cette tendresse, cet amour, si nous nous occupons d'eux et leur faisons goûter les beautés et les choses de la nature, alors l'essence pourrait se nourrir et se développer. La personnalité a aussi sa nourriture. Mais il faut boire certains aspects de la personnalité. Il ne faut pas confondre l'ego, l'essence et la personnalité. Nous allons éclaircir tout cela au vu de la gnose, parce que ce sont des choses très différentes dans la gnose, et nous allons étudier chacune de ces choses. L'ego est l'ensemble des vertus que nous possédons. La colère, l'orgueil, la paresse, la gourmandise, la vanité, la fierté, l'autosuffisance, l'autoimportance, les peurs, la passion animale, etc. D'accord? Tout cela fait partie de l'ego, de moi-même, de moi. Ce sont des véritables démons que nous avons nous-mêmes créés et nous, dans notre monde intérieur, et qui vivent grâce à notre vitalité, qui pompent notre vitalité. C'est ce moi, cet ego, qui crée tous les conflits dans le monde, et nous les avons tous à l'intérieur de nous. L'essence, une chose digne que nous ayons et nous, représente les valeurs de l'âme. Ce sont les valeurs de l'être. C'est la base, le matériel qui nous permettra dans le futur d'incarner notre âme. Le grand maître Jésus nous l'a bien dit. Impatience, vous posséderez votre âme. C'est certain, car nous n'avons pas encore une âme bien incarnée et nue. Nous n'avons qu'un embryon d'âme qui est cette essence. Malheureusement, elle ne se manifeste pas ou très rarement dans notre vie. La personnalité est bien différente. Et bien, qu'est-ce que la personnalité? La personnalité est un véhicule énergétique que nous formons durant nos premières 7 années d'existence, durant les premières 7 années de notre vie. Ces premières années sont régies par la Lune parce que celle-ci régit des naissances. La formation de la personnalité est très importante parce qu'elle sera définitive durant toute notre vie. La personnalité est notre véhicule de l'expression. Elle est différente à chaque nouvelle vie. À chaque fois que nous prenons un corps physique, nous créons une nouvelle personnalité. La personnalité ne vient pas d'autre existence. À chaque existence, nous créons une personnalité parce qu'elle est le véhicule d'expression devant le monde. C'est la façon que nous avons de rire, de marcher, de manger, de parler. C'est la façon que nous avons de nous comporter avec nos ensembles. Voilà ce qu'est la personnalité. C'est notre véhicule d'expression. Cette personnalité peut servir d'expression à l'essence, mais de nos jours, ce n'est pas le cas. Cette personnalité sert de véhicule à l'ego. Et c'est ce qu'il se passe maintenant. Ce véhicule énergétique se base sur l'exemple. Il se base sur ce qu'il voit de ses parents, de ses professeurs, de ses frères, des sœurs, de ses oncles, tantes, de toute sa famille, des personnes qu'il voit à la crèche, de toutes les personnes qui vivent avec lui et autour de lui. Tous ces exemples forment sa personnalité. Et cette personnalité est définitive pour toute sa vie. Il y a donc, comme vous le voyez, deux aspects très importants à développer, à nourrir. L'exemple va donc nourrir la personnalité et celle-ci sera définitive pour toute notre vie. La personnalité se forme entre 0 et 7 ans et elle se renforce avec les expériences de la vie. Mais l'éducation de la personnalité est définitive de 0 à 7 ans. À l'époque de l'Atlantide et de la Lémurie, on faisait très attention à cela. Les enfants allaient dans ces centres éducatifs jusqu'à leurs 7 ans de vie parce que l'on savait à l'époque qu'il fallait former la personnalité avec beaucoup de soins et de prudence. Dans la famille également, dans les foyers, on faisait aussi très attention pour bien former cette personnalité. Cela s'est passé au temple de l'Atlantide et de la Lémurie, durant leur période de splendeur, durant leur âge d'or. Est-il formé et développé la personnalité des enfants parfaitement équilibrée, comme il fallait? Les préceptes ne forment pas la personnalité, c'est l'exemple vivant qui forme cette personnalité. L'adultère qui est vraiment très courant de nos jours, où il n'y a plus de respect dans la famille, cette fidélité qui existait auparavant et qui n'existe plus aujourd'hui, ces familles déchirées, se recomposées, de nombreux mariages et divorces, tout le monde va avec tout le monde, et tout cela se passe à la maison comme si rien n'était, et cela devant nos enfants. Nous sommes dans un état d'involution et de dégénération extrême, et nous disons que nous sommes très modernes et très évolués. Il est évident que nous n'avons rien de moderne, nous ne sommes pas non plus très évolués. L'adultère est donc devenu très courant et il origine toujours des scènes dantesques, des conflits énormes dans la famille, dans les foyers. Il y a des disputes, des drames, des regards violents, des intrigues horribles. Les maris frappent leur épouse, frappent leur enfant, et nous voyons aussi des épouses frappèrent le mari et les enfants aussi, etc. Les enfants sont spectateurs de tout cela. Et si l'enfant a entre 0 et 7 ans, toute cette violence intrafamiliale, toutes ces choses horribles vont s'imprégner dans sa tendre personnalité et y resteront gravées en lui durant toute sa vie. Lorsque nous examinons la vie des criminels et des voyous qui tuent des personnes que nous voyons dans les faits divers ou sans formation, dans un pourcentage assez élevé, ont tous eu des traumatismes horribles quand ils avaient entre 0 à 7 ans, durant la période où se formait précisément leur personnalité humaine. Il faut que nous étudions bien cela, que nous réfléchissons à tout cela. Il y a un axiome qui dit « Le fils qui n'est pas le nôtre, c'est neuvé partout. » De nos jours, la désintégration de la famille est très courante. Nous nous marions une fois, nous avons un enfant, puis nous divorçons, nous nous remarions une autre fois, nous avons un autre enfant, nous divorçons, nous nous mettons avec quelqu'un encore une fois, peut-être sans nous marier, nous avons encore un autre enfant. Bon, ce n'est pas cela qui est très très grave, mais en fait, le fils qui n'est pas le nôtre, c'est un peu partout, c'est-à-dire, nous n'avons pas la compréhension, la tolérance pour les recevoir de manière sincère. Nous traitons toujours nos enfants beaucoup mieux que les enfants qui ne sont pas les nôtres. Bien sûr, et heureusement, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui sont très compréhensives, qui savent tout cela et qui aiment les enfants de l'autre autant que les leurs. Mais nous pourrions compter ces bonnes personnes compréhensives sur les doigts d'une seule main. Même si nous les nions, nous traitons généralement de façon injuste les enfants qui ne sont pas les nôtres. Et tout cela va affecter la personnalité de l'enfant. Cela va l'affecter durant toute sa vie. Nous avons des choses et nous qui se sont passées dans notre enfance, qui influencent notre façon d'agir, notre façon d'être, notre façon de penser, de ressentir. Tout ce que nous avons vécu entre 0 et 7 ans est inscrit, gravé dans notre personnalité. Elle va nous influencer durant toute notre vie. Il y a bien sûr des choses qui peuvent être modifiées, mais au prix d'une terrible et grande volonté, et de connaître aussi les enseignements que nous donnons ici, dans l'Arnos. Nous devrons toujours nous souvenir, en tant que parents, en tant que frères ou sœurs, ou que grands-parents, que tout ce que l'on fait va rester pour toujours gravé dans la personnalité de l'enfant. On dit bien d'ailleurs, tel père, tel fils. Tous les conflits, toutes les disputes qui habitent l'enfant dans sa famille, dans son foyer, toutes les insultes, toutes les violences, toutes les comparaisons que pourrait faire le mari de sa femme ou la femme de son mari, avec le voisin par exemple, ou la voisine, avec l'artiste de cinéma que l'on voit à la télévision, ou le mannequin parfait, toutes ces choses affectent la personnalité de l'enfant. Tout cela va le remplir de ressentiments, d'haine, de peur, de frustration. Et il sera plus tard, sans son travail ou dans son couple, une personne affligée ou sans courage. Il va peut-être perdre son travail et deviendra dépressif. Et que dire des mensonges? Nous élevons nos enfants avec les mensonges. Nous leur apprenons à mentir car nous sommes une race de menteurs. C'est une terrible réalité. Dieu le Père est vérité. Et si nous voulons nous rapprocher du sublime et de la vérité, nous devons arrêter de mentir. Nous élevons nos enfants dans les mensonges. L'enfant qui ne comprend pas apprend finalement à mentir. Il apprend à dire des mensonges parce qu'il a été éduqué ainsi. On ne peut pas exiger Dieu de ne pas être en colère si nous crions toute la journée. On ne peut pas exiger Dieu qu'il ne soit pas paresseux si nous-mêmes nous regardons la télévision toute la journée. Il ne fait rien lorsque nous sommes à la maison. On ne peut pas leur demander de ne pas mentir si nous mentons nous-mêmes sans arrêt. On ne peut pas leur demander de ne pas boire de l'alcool si nous imbibons nous-mêmes. On ne peut pas leur demander de ne pas fumer si nous fumons, parce que c'est nous-mêmes qui leur montrons, qui leur apprenons à agir ainsi. Nous devons bien réfléchir à tout cela. Il y a donc trois aspects qu'il faut développer dans la tendre personnalité de l'enfant. Nous avons déjà dit que le sens se nourrit avec la tendresse et l'amour, avec la musique et la beauté. Le sens se nourrit de la nature, des fleurs, et de tout ce qui est naturellement veut. Voilà de quoi se nourrit l'essence. Il y a trois aspects dans la personnalité très importants qu'il faut éduquer. L'aspect intellectuel, l'aspect émotionnel et l'aspect moteur. Nous ne faisons généralement qu'attention à l'aspect intellectuel. Nous voulons que nos enfants apprennent des langages, des langues étrangères, qu'ils soient bons à l'école ou même parfaits, qu'ils apprennent plein de choses, mais nous oublions l'aspect émotionnel et l'aspect moteur de cette personnalité. Ces trois aspects doivent être éduqués convenablement. Les concepts intellectuels s'éduquent avec des concepts clairs et précis, avec des choses transcendantales, des sujets intellectuels, dans la famille et à l'école, mais ceci de façon équilibrée. Nous ne devons pas les éduquer avec des histoires de bandits, de policières, de voleurs. Nous n'allons pas les éduquer et nous faisons regarder des actes sanglants. Nous devons éduquer le centre intellectuel et de l'enfant, sa personnalité, dans son aspect intellectuel, avec des choses réelles qui valent la peine, des choses utiles, des choses qui vont leur servir pour leur vie pratique, pour leur vie sociale. Il ne faut pas les éduquer intellectuellement en leur faisant entrer dans la mémoire des choses qui ne leur serviront à rien, qui ne leur serviront qu'à débattre et à discuter sans fin, qui ne leur serviront qu'à se sentir supérieurs aux autres, à se penser plus intelligents que les autres. Non, l'intelligence qui ne se mesure pas avec la mémoire, c'est quelque chose de très différent. L'éducation des enfants dans l'aspect intellectuel de leur personnalité doit se faire de façon équilibrée, avec les choses utiles, les choses pratiques. Voilà ce que nous devons faire. L'aspect émotionnel est aussi très important. Cet aspect émotionnel se nourrit de l'art, de la danse, de la musique, du théâtre, de belles peintures, de belles sculptures. Mais comme pour l'aspect intellectuel, il faut sélectionner ces choses. Nous devons sélectionner les aliments que nous donnons à cet aspect émotionnel de la tendre personnalité de l'enfant. Si nous les habituons à écouter de la musique vulgaire, de la musique qui va développer en eux leur instinct animal qui va développer la passion et la luxure, ce n'est pas correct. Bien sûr que l'on s'amuse beaucoup à les voir danser sur de la musique pleine de passion. Cela nous semble très drôle et très mignon. Mais malheureusement, cela nourrit la personnalité de l'enfant dans son aspect émotionnel. Après, il ne faudra pas s'étonner qu'à l'âge de 18 ans, ils seront des enfants un peu partout et qu'ils ne voudront aucune responsabilité envers eux. Et cela parce que nous les avons nourris de façon erronée. Nous les avons nourris depuis leur plus jeune âge avec de la musique à rythme et vulgaire. Nous devons voir cet aspect émotionnel et le développer avec de la musique transcendantale, de la musique supérieure, une musique qui va nourrir le centre émotionnel de façon positive, pour l'art aussi. Ne leur faire voir que des belles peintures, et non pas ces peintures modernes remplies de rêveries que seuls leurs auteurs comprennent. Il faut les ramener dans les zones archéologiques, où ils pourront contempler l'art égyptien, l'art inca, hindou, maya, zapotec, toltec, pour que ce centre émotionnel se nourrisse de façon admirable. Voilà ce que nous devons faire. En ce qui concerne l'aspect moteur de la personnalité de l'enfant, nous devons lui faire du sport de façon équilibrée, avec des marches dans les forêts, dans la nature, dans les parcs, par exemple. Ces trois aspects doivent être nourris de façon équilibrée pour qu'ils déforment correctement la personnalité de l'enfant. C'est un travail que nous devons faire. De 7 à 14 ans, nous sommes dans le septénaire de Mercure, régie, je le répète, par la planète Mercure, qui nous l'édition régie de la raison, la sagesse, l'intellect, la médecine, la profession d'avocate, la profession d'infirmière, le journalisme, etc. Tout cela est en relation avec la planète Mercure. Nous avons dit tout à l'heure que l'époque de la Lémurie et de l'Atlantide, c'était le moment où les enfants entraient dans les études, entraient dans les écoles. Aujourd'hui, nous sommes dans une toute autre époque et nous mettons nos enfants au jardin d'enfants parce qu'il faut bien s'adapter à notre époque. Mais nous devons faire vraiment très attention à l'exemple qu'il reçoit afin de mieux les éduquer. On dit souvent qu'il faut éduquer l'éducateur, et c'est la meilleure façon d'éduquer nos enfants. Nous devons nous éduquer nous-mêmes premièrement. Que voyons-nous chez les enfants? Ces défauts que nous voyons eux, nous devrons les découvrir en nous-mêmes, les corriger en nous-mêmes, et ensuite, par l'exemple vivant, montrer à nos enfants les droits chemins, les chemins corrects à suivre. Dans ce deuxième septennat, régie, je le répète, par la planète Mercure, l'enfant se préoccupe, c'est la meilleure période pour son instruction, pour son éducation, à l'école ou au collège, car il est influencé par cette planète Mercure qui est la planète de la sagesse. Les enfants posent beaucoup de questions à cet âge. Ils veulent connaître beaucoup de choses. C'est très naturel. Ils sont avides de connaissances. Il est très important de voir tous les facteurs qui alimentent nos enfants et en ce qui concerne leur éducation. Nous avons des moyens de communication au sein de notre famille. Nous les avons aussi à l'école. C'est un facteur décisif pour l'éducation de nos enfants. Souvenez-vous que nous parlons du deuxième septennat de la vie. C'est le septennat de la sagesse. C'est le moment idéal pour trouver sa vocation, pour se poser des questions sur son futur travail ou sa future profession. Cette période de l'influence de Mercure est très importante. Nous devons faire très attention à ce qui entre dans le mental de l'enfant à ce moment-là, ainsi que dans ses émotions, comme nous l'avons vu dans les premières septennats. Dans les premières septennats, il est très important d'y faire attention parce que c'est la période où se forme la personnalité de l'enfant, mais il faut aussi faire très attention à ce deuxième septennat parce que l'enfant se trouve dans la période de la sagesse. L'invention et la découverte de la télévision est une technologie incroyable, vous savez. Les ordinateurs sont aussi une invention merveilleuse. Les téléphones portables, les tablettes, les robots, tout cela est formidable. Tout ce que nous possédons aujourd'hui est vraiment extraordinaire et devrait être très utile pour donner une très bonne éducation à nos enfants. Malheureusement, nous ne prêtons pas attention à tous ces aspects bénéfiques de ces nouvelles technologies. Nos enfants regardent, sans aucun discernement, tout ce que leur montrent les moyens de communication, ce qui alimente de façon erronée leur mental et leur émotion, ainsi que nous-mêmes, lorsque nous étions enfants. C'est catastrophique, parce que même si la télévision et nos moyens de communication, comme l'Internet, comme les téléphones portables, etc., les mauvais usages de ceux-ci sont très nocifs. Nous ne sommes pas du tout contre toutes ces technologies, bien sûr que non, attention. Parce que s'il était utilisé dignement, correctement, à bon escient, nous pourrions nous guérir de façon massive toute l'humanité sur des sujets importants comme les beautés de la nature, l'univers et les enseignements qui nous ont laissés les grands initiés comme Bouddha, Quetzalcoatl, Hermès, Zoroastre, Jésus-Christ, Fuji, etc. Ce sera merveilleux, ce sera formidable d'utiliser toutes ces technologies pour cela. Et voyez ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous étudions la gnose dans le monde entier grâce à toute cette belle invention. Nous sommes actuellement au Mexique, mais vous pouvez m'écouter et nous écouter et nous voir n'importe où dans notre planète Terre grâce à ces inventions formidables. La télévision aurait été une bénédiction pour l'humanité si elle était utilisée pour tous les sujets dont nous venons de parler. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Loin de là. Malheureusement, c'est durant les heures de plus grande écoute que nous voyons des violences, de la luxure, des mensonges, des crimes, des armes, des séries policières, des films d'horreur. Il y a également des dessins. Des animés pour les enfants qui sont horribles, qui ne respectent pas les enfants, qui leur inculquent de fausses valeurs. Et tout cela parce que nous ne prêtons pas attention à ce que nos enfants regardent. Nous ne sélectionnons pas les programmes qu'ils regardent. Nous ne savons même pas ce qu'ils sont en train de regarder. Il y a beaucoup de luxure, beaucoup de colère, beaucoup de violence dans ces programmes. Voyez ces dessins animés que regardent les enfants, par exemple Tom et Jerry, les chats et les souris. On voit les chats frapper les petites souris et les petites souris frapper à son tour les chats. L'enfant regarde autour de lui. Et de voir que tout le monde, toute la famille, rit. Tout le monde est très content. Alors, il apprend à ce moment-là que frapper quelqu'un est une bonne chose, est une chose correcte, puisque tout le monde est content. Les enfants grandissent et adorent regarder les séries à la télévision. Ils adorent les dessins animés ou les programmes de la vie pratique et désirent ensuite imiter ce qu'ils ont vu à la télévision. Puis, nous commettons l'erreur de leur acheter des pistolets en plastique, des épées, des camions militaires, et pourquoi faire pour qu'ils imitent à la perfection tout ce qu'ils voient à la télévision. Nous éduquons des futurs criminels, nous inculquons et éduquons nos enfants dans la violence, dans cette violence que nous n'acceptons pas dans notre société et dans le monde. Nous ressemblons à des automates devant nos ordinateurs, devant notre télévision, devant notre téléphone portable. Nous ressemblons à des zombies. Voilà de quoi on l'air. L'unité dans la famille s'est perdue. Nous sommes tous devant nos appareils insouriants comme des abrutis, en parlant tout seuls. Nous ne communiquons plus du tout réellement avec nos proches, avec personne. Le mari ne peut plus parler avec son épouse. Lorsqu'il arrive du travail, il ne peut plus parler de ce qu'ils ont fait durant la journée. Le mari est en train de regarder un match de football à la télévision ou un film. Il n'a pas le temps d'écouter son épouse. Et c'est valable aussi pour la femme. Elle n'a pas le temps non plus d'écouter son mari. Il faut un temps où elle était contente de retrouver son mari après le travail, de le recevoir dans la porte de son maison. Eh bien non. Maintenant, elle est sur son téléphone. Elle s'occupe de cette nouvelle danse à la mode. Elle veut suivre la vie de ses stars et des mannequins. Elle n'a pas le temps pour les maris ni pour les enfants. Voilà ce que nous sommes devenus. C'est la triste réalité. Il faut que nous fassions très attention à tout cela et nous devons avoir la volonté de prendre un chemin différent. Ce n'est pas facile. Bien sûr que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. La technologie peut nous être utile pour donner une bonne éducation à nos enfants, et dans ces 7 années, de 7 à 14 ans. Et c'est très important, mais nous devons apprendre à utiliser nos moyens de communication de façon correcte. Cette technologie serait merveilleuse si nous l'utilisons correctement. Dans la famille, dans le foyer, deux facteurs importants doivent s'équilibrer. Ces deux facteurs sont la sévérité et la douceur. Si nous éduquons nos enfants avec simplement une grande sévérité, nous serons des enfants pleins de haine, de colère et de ressentiment. Si nous les éduquons avec trop de tolérance, trop de douceur et de complaisance, nous serons des enfants qui penseront que le monde leur appartient, qu'ils doivent tous posséder des droits, que tout le monde doit les servir. Nous serons des enfants qui ne voudront pas travailler pour gagner leur vie. Et c'est là, parce que nous ne savons pas équilibrer la sévérité et la douceur. La sévérité et la douceur doivent s'équilibrer sur le plateau de la balance cosmique. La sagesse et l'amour doivent s'équilibrer sur ces deux plateaux. Quand la sévérité et la douceur, c'est-à-dire la sagesse et l'amour, s'unissent, alors le foyer, la famille, fonctionne correctement, fonctionne comme il se doit. Nous ne devons pas être complaisantes avec nos enfants s'ils ont menti, ou s'ils ont commis un vol ou une autre faute importante. Nous ne pouvons pas, dans ces cas, les traiter avec douceur, non. Ce sera devenir complice du délit et être en accord avec ces délits. Lorsque nous sommes complices du délit, nous commettons aussi un délit. Nous ne devons pas les frapper, bien sûr, mais nous devons agir avec sévérité. Quand le maître Jésus entra dans le temple et vit tous ces marchands faisant des affaires dans ce temple, il ne leur dit pas alors, « S'il vous plaît, mes frères, sortez de ce temple. Je vous en prie, s'il vous plaît, partez de cet endroit. Ne faites pas de commerce ici. » Non, bien sûr, qu'il ne leur a pas parlé ainsi. Il s'est muni d'un fouet. Il ne les a pas frappés, la Bible ne dit pas cela, mais il prit un fouet qui représente la volonté pour faire sortir tous ces marchands du temple. Nous devons faire de même. Nous devons équilibrer la sagesse et l'amour, la sévérité et la douceur. Nous devons bien étudier tous ces aspects car ils sont très importants. Nous devons bien y réfléchir et ne pas toujours dire « C'est la faute des autres. Nous sommes tous coupables et nous sommes les facteurs déterminants de l'éducation et responsables de tout ce qui se passe dans notre foyer, dans notre famille. C'est définitif. » Le troisième septenaire est celui de Vénus. De la planète Vénus. Vénus est la planète de la mort. C'est elle qui gouverne la période de 14 à 21 ans. C'est le moment de la vie où nous voyons tout en rose. Tout est simple, tout est facile. Et nous devons faire très attention à ces septennats. Nous devons faire très attention à cette énergie nouvelle qui fluait à l'intérieur de l'être humain. Dans ces septennats où Vénus, planète de la mort, influence l'être humain, beaucoup ont leur premier contact sexuel. Ce qui n'est pas évidemment correct. Parce que l'être humain n'est pas encore mûr pour cela. La maturité sexuelle du jeune homme est effective à 21 ans et à 18 ans pour la jeune fille. Avant cet âge-là, soumettre le corps à l'acte sexuel et son violence contre la nature parce que cette énergie sexuelle est encore en train de travailler à l'intérieur de l'être humain pour qu'il soit complété, terminé. Un aiglon à la naissance est déjà un aigle. Un chiot à la naissance est déjà un chien. Mais un être humain à sa naissance n'est pas encore complètement terminé. Nous ne parlons pas de quelque chose de physique. Il se peut qu'il lui manque une main, un ouïe, une oreille, un doigt. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le corps humain nécessite, pour sa complète formation, de certains processus internes qui doivent se faire peu à peu. Et c'est l'énergie sexuelle qui continue ce processus à partir de 14 ans. Et jusqu'à 21 ans. Soumettre donc notre corps physique à l'acte sexuel dans ces septennats, ce qui est très fréquent de nos jours par manque d'éducation et ou à cause de mise en garde non faite à temps, est une violence contre la nature. Vous pouvez me dire, eh bien moi, j'ai 40 ans, je suis bien en forme et complète, il ne me manque rien alors que j'ai commencé mes activités sexuelles à 16 ans. à 18 ans. Bien, bien sûr, ce que nous pouvons nous dire, mais par contre, nous ne sommes pas clairvoyantes, nous n'avons pas de clairaudience, nous n'avons pas de télépathie, nous n'avons pas d'intuition, nous ne nous souvenons pas de notre vie passée, nous ne connaissons rien au mystère du feu, de l'air et de la terre. Nous ne connaissons rien de cet état de yin. Nous ne connaissons pas les sorties astrales. Nous ne savons rien. Nous méconnaissons tout. Nous ne savons rien de tout. Pourquoi? Parce que nous sommes incomplètes à cause de nos abus sexuels. Il faut apprendre à vivre correctement chaque septennat qui nous correspond. Nous nous trompons lourdement lorsque nous demandons à notre petit garçon « Alors, tu as déjà un fiancé, une petite copine ?» Pourquoi le parler ainsi? Pourquoi voulons-nous toujours les brusquer? Pourquoi faisons-nous des blagues de ce genre? Chaque chose se fera en son temps. Le mariage viendra en son temps. Et il sera bon en son temps. Dans un septennat, il voudrait mieux faire une préparation pour le mariage. En parler pour une bonne préparation pour un mariage qui se fera plus tard. Ce septennat est régi par Vénus. Et dans notre intérieur fluait de façon extraordinaire l'énergie sexuelle. Alors, les caractères sexuels secondaires commencent à apparaître dans toute leur splendeur. Les jeunes hommes, eux, sa voix change, la jeune fille voit ses anges s'élargir. L'énergie sexuelle fluait de façon incroyable dans tout l'organisme de l'être humain, et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut apprendre à canaliser cette énergie. L'adolescence commence et tous ces changements n'y sont pas prêts. Personne ne nous a appris à les canaliser, à les gérer et à les contrôler. De nos jours, nous avons des enfants complètement à l'abandon. Ils sont sans arrêt devant la télévision. Ils surfent sur Internet toute la journée. Ils ont leur téléphone portable ou leur tablette toujours dans la main. Ils jouent à des jeux vidéo trop souvent. C'est ainsi qu'ils apprennent la violence. Les combats, les guerres, la luxure. Et ils ne savent pas quoi faire de cette énergie qui les submerge, cette énergie extraordinaire étudiée par les grands alchimistes médiévaux en leur temps. Ces alchimistes médiévaux appellèrent cette énergie sexuelle les mercures. Les mercures. Tous les alchimistes avaient ce terme équivalent pour parler de cette énergie. Il parlait d'une alchimie interne, non pas physique mais spirituelle. Et ce fameux mercure, qui était la matière première du grand œuvre, n'était pas autre chose que ce mercure sensible, malléable, qu'il s'appelait aussi vitriol. Ce vitriol, c'est un séminis, comme l'appelait Paracels, c'était cette énergie sexuelle féminine et masculine. C'est le mercure philosophal. L'anséminis, ce mercure philosophal, est extrêmement puissant. Réfléchissez un instant. Quelle serait pour vous l'énergie la plus puissante existante dans le monde, dans la nature? Vous pouvez me dire l'électricité, le magnétisme. Méditons un peu, mes chers amis. Quelle est l'énergie qui a le pouvoir de la création? Quelle est l'énergie qui permet de créer un être humain. Avec tous ses neurones, ses systèmes digestifs, nerveux, ses membres et toutes ses merveilles dont est fait un être humain. Eh bien, c'est l'énergie sexuelle, bien sûr. Un seul spermatozoïde et un seul ovule sont capables de donner la vie. Il ne s'agit pas de devenir libertin, mais il ne s'agit pas non plus que l'on ait des fausses pudeurs. Souvent, nous avons une fausse pudeur et nous ne parlons jamais de la sexualité avec nos enfants. Et comment ils sont inquiets sur le sujet, cette énergie sexuelle est très importante et nouvelle pour eux. Alors, comme ils se posent des questions, la réponse, ils vont les chercher à l'extérieur, avec leurs amis ou d'autres personnes déjà dégénérées, qui leur donneront les mauvaises réponses et leur feront avoir des habitudes négatives. Et c'est ce qu'ils apprendront. Lorsque nous devons parler, et que nous ne parlons pas, c'est un délit. C'est taire à ce moment-là, et c'est un délit. On dit que le silence est d'or. Mais il y a des silences qui sont délictueux. Et dans ces cas précis, ces silences sont délictueux. Il y a environ une trentaine d'années, de très nombreuses personnes avaient cette fausse pudeur. Et elle était très importante. De nos jours, nous faisons tout le contraire. Nous nous retrouvons de l'autre côté du pendule, de l'autre extrême. Nous parlons de la sexualité d'une façon très libre à nos enfants. Mais nous leur parlons d'une sexualité complètement dégénérée. Nous sommes passés dans notre extrême. On dirait que nous leur apprenons à abuser du sexe et à ne pas l'utiliser correctement. Nous devons rapidement réfléchir à tout cela. Il est indispensable que nous leur apprenions à contrôler cette énergie. Combien d'enfants affaiblissent et mes besoins voyons-nous à cause d'une mauvaise utilisation de leur énergie sexuelle. Et nous ne parlons pas seulement de l'acte sexuel exécuté avant un âge correct. Nous parlons aussi de la masturbation, de la pornographie. Tout cela n'est pas si naturel que l'on pourrait le croire. La masturbation, la pornographie ne font pas partie de la nature humaine. Ce sont des abus de Mercure. Un abus de l'énergie la plus puissante qui existe dans l'univers. Des personnes comme Beethoven, Mozart, Wagner, ou comme Leonardo da Vinci et Michelangelo, pour ne prendre que ces exemples-là, ont gardé leur énergie. Ils ne l'ont pas gaspillée comme nous le faisons de nos jours avec tous ces exemples. Avec l'abus sexuel, avec la pornographie, avec la masturbation. Voyez comment nos enfants sont de plus en plus faibles et fébriles de nos jours. Nous croyons que nous avons des enfants fantastiques, très beaux et bien portants, mais en vérité, nous sommes de plus en plus affaiblis et tombons malades de plus en plus souvent. Nous allons de mal en pis dans tous les aspects parce qu'il n'y a pas de sélection dans notre semence. Les paysans choisissaient leur meilleur grain pour que leur culture future soit les meilleurs. Nous les êtres humains, nous ne les faisons pas. Depuis notre plus jeune âge, nous abusons de notre énergie sexuelle, ce qui est de notre faute parce que nous ne donnons pas l'exemple, parce que nous regardons des programmes malsains qui parlent de sexe sans franchement en parler. Nous regardons des séries où il y a beaucoup de scènes érotiques. Nous regardons des films avec des scènes perverses. Et tout cela, nos enfants les regardent aussi et apprennent de ces exemples. Les enfants arrivent dans cet âge de puission, comme on dit, dans cette période régie par la planète Vénus. Et cette énergie flue en eux de façon terrible. Ils ne savent pas les canaliser. La façon de penser change. La façon de ressentir les choses change. Mais ils ne savent pas quoi faire avec tout cela. Alors, ils deviennent sur le chemin de la masturbation, de la pornographie, ainsi que sur le chemin de l'acte sexuel. Anticiper l'infrasexualité. Et c'est ce que nous faisons tous parce que nous ne savons pas canaliser cette énergie sexuelle si puissante. Il faut apprendre à la sublimer, à la canaliser. Comment? Par des promenades à la campagne, à la montagne, en faisant de longues marches dans la nature. Tout cela sublime notre énergie sexuelle, la transforme, la canalise. Vous, les jeunes, les adolescents qui nous écoutent à ce moment, si vous ne voulez pas échouer dans vos vies, si vous voulez avoir plus de contrôle sur cette énergie, si vous ne voulez pas accélérer les choses, si vous ne voulez pas vous précipiter, vous devez apprendre à sublimer votre énergie sexuelle. Il faut apprendre à la canaliser. Et comment le fait-on? Eh bien, en faisant ce que nous sommes en train de dire. En faisant des exercices équilibrés, en étant en contact avec la nature, les arbres, les fleurs, en écoutant de la musique classique qui transforme notre énergie sexuelle lorsque nous l'écoutons avec vénération. La musique de la nouvelle vague, la musique moderne, affecte notre énergie sexuelle. Voyez comment l'on se trémousse, comment on bouge notre corps lorsque l'on entend cette musique moderne parce qu'il s'agit parce qu'elle agit sur notre volonté. Comment va dire sur nous cette musique vulgaire, rythmée et pleine de luxure? Elle va affecter notre façon de penser, de sentir et notre énergie sexuelle aussi. Elle va nous poser à commettre des actes erronés. Nous allons récolter ensuite toutes ces choses. Tant d'adolescentes qui n'ont même pas encore de maturité se promènent avec des bébés qui n'ont pas de père, que les hommes abandonnent. Combien de jeunes filles sont abandonnées par les hommes qui ne veulent pas de responsabilité parce que ce n'est qu'un jeu pour eux. Tout cela, nous allons en subir les conséquences. Nous allons les récolter plus tard. C'est nous qui serons abandonnés car la loi du karma existe et toutes ces que nous aimons, nous les récolterons un jour. Nous devons donc apprendre à canaliser cette énergie. Nous devrions avoir un cerveau comme celui de Beethoven ou celui de Mozart. Faire des choses géniales et nous pourrions les faire si nous apprenions de notre plus jeune âge à sublimer cette extraordinaire énergie créatrice. La musique classique l'est fait. Il faut apprendre à écouter la musique de Beethoven, de Mozart, de Wagner et d'autres avec vénération. Les statuettes et les statuettes qui nous laissèrent les Mayas, comme celle du dieu de la pluie par exemple, sont sublimes. Nous devrions apprendre à les observer, à les connaître, à les admirer, à admirer toutes ces merveilles. La peinture que nous voyons ici, sur la diapositive qui se trouve dans la zone archéologique de Cacaxtla, ici au Mexique, est incroyable. On peut y voir un chevalier tiré, entourant de ses bras une poignée de lance. C'est quelque chose d'incroyable et de trompe-but. Ce n'est pas une peinture représentant la guerre, non. Il ne tuait pas des gens, non. C'était des personnes qui luttaient contre elles-mêmes. Voilà un art véritable. Nous devons aussi apprendre à faire bon usage du verbe, de la parole, parce que l'énergie sexuelle est unie à la parole. Lorsque nous faisons un mauvais usage de la parole, cela affecte aussi notre énergie sexuelle. Il faut donc arrêter de mentir, arrêter de dire des injures, des grossièretés, arrêter de maudire, arrêter de parler avec des sous-entendus, arrêter les ragottes et les rumeurs et de faire des histoires. Faire du sport de façon équilibrée, sublimer aussi notre énergie sexuelle. Et nous vous donnerons, dans la première chambre, des procédés particuliers pour sublimer cette énergie. Terminez vos cours de l'antichambre, chers amis, par email. Continuez vos cours par courrier électronique. Ne les abandonnez pas. Combinez-les avec les conférences que nous faisons en direct. Puisque lorsque vous arriverez en première chambre, nous puissions vous donner des procédés dans plus d'une dizaine de conférences et vous verrez, ce n'est pas n'importe quoi. Pour transmuter l'énergie sexuelle, pour les célibataires ainsi que pour les couples mariés, afin qu'ils subliment à travers les mariages, puis qu'ils transforment à travers les mariages leur énergie sexuelle. Pour faire bon usage de ces forces merveilleuses qui nous donnèrent la vie, qui nous firent naître dans cette existence, nous mangeons du fruit défendu tous les jours. C'est ce que nous faisons sans arrêt. Manger cette pomme, ce fruit dont on nous avait demandé de ne pas se manger. Vous ne mangerez pas cette fruit. Ce qui signifie, vous ne ferez pas le bon usage de votre énergie sexuelle. C'est à cause de cette désobéissance que nous fûmes expulsés de l'Éden. Et si nous voulons y retourner à nouveau, nous devrons arrêter de manger les fruits défendus. Nous devons arrêter d'abuser de cette énergie créatrice. Et apprendrez à la canaliser comme il se doit. Voilà, mes amis, nous venons de voir et d'étudier dans cette conférence trois des sept septennats qui existent dans notre vie. Nous continuerons dans une prochaine conférence à étudier les septennats du Soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne. Chers amis, voilà la conférence d'aujourd'hui. Pour approfondir dans cette connaissance, nous vous recommandons le livret de l'éducation fondamentale par le maître Samael Aumbeor et que vous pouvez trouver de manière gratuite dans notre website www.samaelgnosis.net dans la section en français. Merci beaucoup pour nous accompagner. À bientôt, chers amis.